Benoît Basirico et Cinésique sur Aligre FM pour presque une heure consacrée à la musique de film. Alors tout d'abord, bonne année à tous. En ce mois de janvier, nous vous proposons une émission spéciale où nous dressons un bilan musical des films de 2016. Pour cela, je serai en compagnie de Thierry Jousse, journaliste et réalisateur, éminent passionné et spécialiste de la musique de film. On peut vous écouter sur France Musique aux côtés de Laurent Valero dans Easy Tempo tous les dimanches de 18h à 20h. Et vous étiez le 26 novembre dernier le monsieur loyal de la soirée de remise du 10e prix France Musique SACEM de la musique de film à la maison de la radio. Thierry, bonjour.
Bonjour Benoît.
Et nous recevons également Charles-Pierre Vallière, musicologue de formation, ancien chroniqueur à France Musique, où il a pu d'ailleurs officier à vos côtés, Thierry, également enseignant sur les questions de la musique à l'image à Paris 8. Charles-Pierre, bonjour.
Bonjour Benoît.
Sans plus tarder, pour commencer, nous nous intéressons à l'actualité des dernières BO avec la musique de deux films à l'affiche, American Pastoral et Rogue One, A Star Wars Story. Pour American Pastoral, le film avec Ewan McGregor est réalisé par Ewan McGregor. Ce drame historique dans l'Amérique des années 60, Alexandre Desplat signe ici la musique aux accents tragiques et solennels. Après American Pastoral, nous venons d'entendre Rogue One, Star Wars Story, musique de Michael Giacchino. Alors, bilan 2016 avec Thierry Jousse et Charles-Pierre Vallière. Quels étaient les meilleurs BO de l'année? Alors, tout d'abord, est-ce que Thierry et Charles-Pierre, vous pouvez un peu dégager, est-ce qu'une tendance se dégage dans la musique de film de manière générale? Est-ce que, par exemple, on dit qu'il y a moins de thèmes, il y a moins de grandes BO aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a justement la musique de film est en déclin?
En déclin, c'est peut-être excessif. Moi, je, comme vous le savez, peut-être j'ai plutôt un tropisme qui me pousse volontiers vers les années 60-70. Donc, j'ai toujours tendance à penser que c'était peut-être un peu mieux avant. Mais enfin, objectivement, il n'y a aucune preuve tangible de cet état de fait. L'absence de thèmes, ou du moins la moindre présence des thèmes, c'était un phénomène qui est déjà à l'œuvre depuis quand même pas mal d'années. J'aurais tendance à dire une dizaine d'années, ou peut-être même davantage. Donc, il n'y a pas de remontée, on va dire, spectaculaire. spectaculaire de retour du thème. En même temps, il y en a quand même dans un certain nombre de BO. J'ai l'impression que l'orchestre est quand même très installé cette année-là, enfin depuis quelques temps, et que finalement, on aurait eu tendance à penser que l'électronique allait tout submerger sur son passage. Et bon, son passage n'est pas récent non plus, parce que ça fait longtemps qu'on fait de la musique électronique au cinéma, mais je ne trouve pas que finalement ce soit vraiment le cas. On reste dans des tendances... En tout cas, moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment une tendance, en tout cas de mon point de vue à moi, mais peut-être j'ai pas vu assez de films, peut-être que Charles-Pierre Valière va pouvoir me contredire. J'ai pas eu le sentiment, en tout cas, qu'il y avait une tendance massive dans cette année cinématographique. Je trouve que le paysage est assez éclaté, que chacun fait un peu les bricoles un peu dans son coin, notamment en France, ce qui est assez traditionnel de toute façon. Bon, mais il y a quelques compositeurs qui se détachent. Et puis qu'aux États-Unis, pour prendre les deux pays, disons, qui en général sont les plus, disons, qui nous occupent le plus sur cette question de la musique de film, on est toujours sur des compositeurs maintenant qui sont bien connus. Vous en avez cité deux juste avant, Benoît, Giacchino par exemple et Desplat. Bon, donc on les connaît bien, on connaît bien leur manière de faire, leur style. Je n'ai pas eu de choc, disons, équivalent à celui qu'on a pu avoir il y a, je crois, deux ans pour Mika Levy, pour le film dont on m'échappe maintenant, Under the Skin, qui lui avait été un vrai choc cette année. Je dirais qu'il n'y a pas eu ce choc-là, malheureusement, où bon, ça n'arrive pas tous les ans, qui ait pu me marquer autant, quoi.
En fait, c'est vrai que je rejoins assez Thierry sur l'ensemble, hein, je suis globalement d'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on observe depuis plusieurs années, hein, même on en avait déjà discuté, Benoît, il y a quelques temps de ça, il y a une sorte de mutation, c'est-à-dire que vraiment, l'électro a tendance à se réapproprier, justement, alors, à la fois la musique acoustique, mais le jazz, enfin, va être capable de tout s'approprier et de nous servir, justement, une musique, alors, pas forcément standardisée, justement, quand on est en Europe, c'est plus vrai aux États-Unis, mais on observe malgré tout une tendance qui est celle d'une présence massive de l'électro. Je trouve que certes c'est éclaté, pour ça je suis d'accord assez Thierry, avec le fait qu'il y ait quand même une diversité musicale, mais globalement l'électro l'emporte sur la plupart des musiques. Globalement, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de grands mélodistes, après ça dépend ce que l'on attend de la musique, mais on pourrait dire que moi la fracture elle se situe entre ceux qui composent de la musique et qui ont vraiment l'habitude d'en faire pour le cinéma, qui proposent quelque chose qui est intéressant avec une haute technicité dans la composition et dans l'articulation avec l'image, et de l'autre côté, ce sont plus justement des autodidactes qui, eux, vont apporter un regard nouveau, qui vont composer parfois chez eux des morceaux de musique qui viennent de la pop ou justement de l'électro parfois, mais qui n'ont pas touché au cinéma et qui subitement apportent un regard nouveau, pas forcément aussi bien articulé avec l'image, mais avec une fraîcheur incomparable. C'est un peu le cas justement de quelqu'un comme Mika Levy qui n'avait pas fait de film avant, quoi.
Évidemment, je suis d'accord avec vous, Charles-Pierre, il y a l'électronique, disons, a gagné l'ensemble du processus, même de, on pourrait dire, de post-production d'un film, hein, puisque tout ça se mélange avec les questions du son, donc tout ça est très intégré, et donc l'électro intègre tout sur son passage, on pourrait dire. Mais moi, quand j'entendais électro, je voulais dire vraiment la musique essentiellement électronique, c'est-à-dire vraiment totalement électronique.
Qui est très typique des années 80.
Parce que oui, mais pas forcément, parce que, enfin, on va pas rentrer dans les détails mais enfin, je pensais à une BO comme celle de The Revenant, où là, on est vraiment sur un travail quasi expérimental de Sakamoto et un autre musicien dont le nom m'échappe aussi, mais vous me direz tout à l'heure. C'est co-signé, en tout cas, je crois que c'est Karsten Nicolai, il me semble. Oui, mais d'un autre côté, pour prendre un exemple inverse, à l'inverse, quelqu'un comme Rob, qui est plutôt connu pour faire des musiques à base électronique, il a fait une partition, alors avec un arrangeur, certes, mais qui est quand même à base, finalement, de cordes pour Planétarium, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Donc, je suis assez partagé, je trouve que disons, l'électro pur et dur, disons, est pas quand même, la dominante absolue de la musique de film, comme on aurait pu le croire, même si, évidemment, elle est présente.
Commençons à dévoiler nos choix pour cette année 2016 et on commence avec justement une musique synthético-organique qui met la part belle à la dissonance. Il s'agit de ce compositeur français Woodkid, Johan Lemoine de son vrai nom, choisi donc, Charles-Pierre, par vous, Desierto.
Moi, c'est une de mes BO préférées cette année parce qu'elle était très surprenante. Alors le film, quand on le voit, il est lui aussi très très fort, c'est un survival. Vraiment où on a des Mexicains qui essaient de franchir la frontière et d'aller aux États-Unis, qui sont pourchassés par une sorte de redneck, on ne sait pas très bien, qui a décidé vraiment de tous les tuer. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que vraiment les personnages.
C'est pas de Donald Trump, non.
il y a une vraie profondeur. C'est un film moi qui m'a vraiment marqué, et la musique justement y participait très largement. Alors sans sans être non plus omniprésente, elle est quand même très présente. Et c'est une sorte de, comme vous le dites, vous la décriviez, organique, je crois.
Synthético-organique.
Synthético-organique, c'est pas mal parce qu'effectivement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de râle intérieur, de hurlement intérieur, qui n'est pas manifesté forcément par les personnages, mais que l'on ressent tout de même. Et donc, elle traverse comme ça tout le film. C'est vraiment une des bandes originales les plus intéressantes pour moi cette année. Ouais.
À l'instant, dans les forêts de Sibérie, qui a succédé à Desierto, on passe comme ça d'une musique dissonante à une musique un peu plus lyrique et belle, entre guillemets, une musique écrite par le compositeur de jazz Ibrahim Malouf pour ce film en Sibérie, donc avec ses beaux paysages. Film de Safi Nebbou.
J'avoue que je suis un peu moins sensible que vous, en tout cas, et peut-être que Charles-Pierre également, d'ailleurs. C'est pas que disons, c'est pas qu'Ibrahim Malouf n'ait aucun talent, bien évidemment, on connaît son travail comme trompettiste-compositeur dans le jazz contemporain, c'est même la star du jazz contemporain français. Mais pour l'instant, au cinéma, ça m'a jamais complètement convaincu. J'ai toujours eu l'impression qu'il faisait ce que j'appellerais de la jolie musique, mais que c'était un peu trop lisse pour moi, et que voilà, la sonorité de sa musique globalement est un peu enrobante, mais ça, voilà, ça, pour moi, ça ne produit pas vraiment, ça n'a pas vraiment un impact très fort dans son rapport avec l'image, ni même quand j'écoute la musique tout seul.
D'accord, donc il y a débat sur un de mes choix de l'année pour Dans les forêts de Sibérie. Y aura-t-il débat pour Ennio Morricone, le compositeur incontournable évidemment qui a reçu son Oscar pour ce film Les Huit Salopards, pour ce nouveau western de Quentin Tarantino, et cette première collaboration, puisqu'il avait utilisé des musiques préexistantes d'Ennio Morricone, mais c'est la première fois qu'il collabore réellement avec lui. Et donc Oscar à la clé, Les Huit Salopards, qui est votre choix, Thierry Jousse.
Oui, alors c'est plus un choix musical que cinématographique, ce qui peut arriver parfois dans la musique de film, où parfois on préfère la musique à ce que le film en fait. C'est intéressant, bon, c'était quand même un événement, c'est même peut-être été un des grands événements de l'année, d'abord parce que Morricone a eu obtenu son premier Oscar en tant que compositeur à part entière, il avait déjà eu un Oscar d'honneur pour ce film, donc il est mieux vaut tard que jamais, comme on dit, et parce que c'est le retour un peu de Morricone après la bande originale du film de Christian Carion, En mai fait ce qu'il te plaît, mais là, bien davantage encore, au premier plan, alors qu'il a 87 ans, bientôt 88, et que c'est quand même un compositeur qui a fait quand même l'essentiel de son œuvre, bon, dans les années 60, 70, 80 et plus si affinité. Et j'ai été agréablement, très agréablement surpris par la bande originale de ce film, dont on a pu remarquer quelques échos avec celle qu'il avait fait pour le film de Dario Argento, Le syndrome de Stendhal, bon, qui est un film de milieu des années 90, qui était une des dernières, pour moi, grandes BO de Morricone avec Mission to Mars à cette période. Bon, et là, j'avoue que, alors, je suis pas forcément très convaincu par le film de Tarantino, que je trouve plutôt moins bon que, comme la plupart des spectateurs d'ailleurs, que un certain nombre d'autres.
Moi, j'ai trouvé très bien, par contre. Hein.
Effectivement. Moi, je suis pas non plus un amateur absolu de tout ce qu'a fait Tarantino, donc je fais aussi partie des gens qui émettent parfois des bémols ou des réserves sur des films qui sont universellement aimés, comme Pulp Fiction. Donc bon, voilà. Donc mais j'aime quand même certains des films de Tarantino. Je trouve intéressant qu'il ait tenté l'expérience avec Tarantino. Avec Morricone réellement, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre physique se soit faite, qui avait déjà été envisagée sur des films précédents, notamment sur, je crois, sur Inglourious Basterds. Mais et curieusement, je ne trouve pas forcément que le résultat de la collaboration entre les deux, musicalement, elle est très réussie. Après, dans l'usage qu'en fait Tarantino dans le film, je ne trouve pas forcément que ce soit aussi pertinent peut-être que quand il utilisait des musiques déjà connues de Ennio Morricone.
Certes, on retrouve un Ennio Morricone qui est pour son âge, au sommet de sa forme quand même, malgré tout. Il est capable de proposer une musique assez novatrice malgré tout, enfin, toute proportion gardée, même s'il s'inspire effectivement de certaines de ses musiques passées. Le problème, c'est que c'est Ennio Morricone, c'est une superstar qui, généralement, on lui délègue totalement le travail et il fait ce qu'il a envie de faire. Et de l'autre côté, on a Quentin Tarantino qui, lui, a l'habitude, au contraire, d'aller piocher des musiques et qui travaille beaucoup avec les connotations au cinéma. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si, effectivement, Tarantino adore les musiques de Morricone, il l'a prouvé par le passé dans ses films en les utilisant, eh bien, quand c'est Morricone qui compose directement pour un de ses films, eh bien c'est embarrassant pour lui, parce que justement, il ne peut plus fonctionner avec ses connotations puisqu'on découvre la musique. Ça, c'est à mon avis ce qui fait que le film, pour moi, j'ai vraiment adoré, parce que vraiment, même s'il est long, il est vraiment à la fois fascinant, extrêmement violent et en même temps extrêmement drôle, parfois. Donc, j'ai retrouvé l'univers de Tarantino que moi, j'appréciais tout particulièrement. Mais musicalement, eh bien, il faudrait presque dissocier la musique de Morricone. D'ailleurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est que parfois, Tarantino a repris des musiques de Morricone qu'il avait composées, je crois, à l'Exorciste. L'exercice de Borman.
Hérétique, oui.
Donc, parce qu'il en avait besoin. Mmh. Il n'a pas pu s'empêcher de reprendre des musiques qu'il aimait bien, quoi, de Morricone.
Donc, débat sur le film de Tarantino, mais tout le monde se retrouve sur cette musique d'Ennio Morricone.
Thank you.
Après Ennio Morricone et les 8 salopards, on retrouve à l'instant un compositeur italien avec Carlo Virzi qui écrit la musique de la comédie de son frère Paolo Virzi. Cette musique est complètement déconstruite, elle scie parfaitement à cet univers comme ça d'errance psychologique des personnages. Je crois que Charles-Pierre, vous l'avez aussi aimé.
Malheureusement, je n'ai pas vu le film. Par contre, j'avais écouté la BO et c'était une BO qui était assez frappante. Elle était à la fois teintée de classicisme et de modernité, une forme de classicisme dans l'utilisation des instruments et de modernité dans la composition. Avec un mélange effectivement d'un univers à la fois féerique, aussi festif. C'est-à-dire que vraiment, c'est une musique très incitative pour moi.
Tout à fait. Donc, un des choix de l'année, Folle de joie, le film de Paolo Virzi, musique de Carlo Virzi. On retrouve après Desierto tout à l'heure un réalisateur mexicain avec un compositeur japonais sur le retour. Il s'agit de la première collaboration de Rishi Sakamoto pour le cinéaste Alejandro González Iñárritu, qui avait jusque-là collaboré avec Gustavo Santaolalla ou notamment sur Birdman avec Antonio Sanchez. Il mélange ici la musique électronique et acoustique. On continue dans cette voie-là.
Oui, alors moi, ça fait partie des très très belles BO de cette année. C'est très étonnant. Alors c'est vrai qu'après Sakamoto, il est estampillé Furio. On a toujours cette musique.
Ou le dernier empereur.
Mais là, en l'occurrence, c'est effectivement un mélange de musique à la fois électro et très très contemporaine. Quand on écoute certaines des musiques qui ont été faites par Sakamoto pour des films d'animation, je pense à Appleseed, c'est parfois très avant-gardiste, très très dur en fait comme sonorité, presque déplaisant, mais intéressant. Alors heureusement, ça ne dure pas forcément longtemps, alors qu'ici, dans le film d'Iñárritu, les plages musicales sont très longues. Et on a une sorte de grand contrepoint dramaturgique où on a une musique qui nous fait entendre à la fois donc, une sorte d'oppression, de violence. Certes, les images le sont aussi, mais il y a une forme de passivité. C'est-à-dire que le regard de la caméra est très passif et la musique, elle est d'une violence et quelque chose de très âpre qui nous est proposé. Et ça donne un mélange pour moi vraiment très, très, très intéressant. Je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le film d'Iñárritu. Et la musique de Sakamoto le mettait vraiment, vraiment en valeur, surtout qu'en plus, il y a une opposition avec des moments de silence. Ça joue beaucoup là-dessus. D'ailleurs, dans les forêts de Sibérie, c'était aussi un peu l'intention d'Ibrahim Malou, si j'ai bonne mémoire.
Ce que je trouve assez frappant chez Sakamoto, c'est qu'il est à la fois capable de produire quand même des grandes mélodies. Vous avez cité ouais. Bertolucci ou Oshima, mais également pour Almodovar, par exemple. Peu de compositeurs dans le monde aujourd'hui, même en dehors de la musique de film, en tout cas dans la musique de film, qui sont capables à la fois de produire cette musique mélodique, musique de chambre ou musique symphonique, et puis en même temps, voilà, des textures électroniques qui sont vraiment comme un peu presque une installation sonore. Donc, c'est assez remarquable de la part de Sakamoto.
À l'instant, Julieta, le nouveau film de Almodovar, avec musique d'Alberto Iglesias, qui retrouve donc son fidèle cinéaste pour la 10e fois depuis leur première collaboration sur La fleur de mon secret. Thierry Jousse.
Bah, c'est presque une citation pour l'ensemble de son œuvre, on pourrait dire, enfin pour l'ensemble de leur œuvre. C'est quand même un des duos de compositeurs et réalisateurs les plus aboutis de ces dernières années. Ça fait quand même presque 20 ans maintenant qu'ils travaillent ensemble. Et quand il a rencontré Alberto Iglesias, ça a été vraiment un coup de foudre, on pourrait dire, parce que voilà, on n'imagine plus maintenant un film d'Almodovar dans la dernière période sans les BO de Alberto Iglesias. Donc voilà, c'est un mariage pleinement réussi. Je ne sais pas si c'est forcément la musique que je préfère de toutes celles qu'a pu composer Iglesias. Je crois que j'ai une préférence pour peut-être celle de La piel qui habito, par exemple, que je trouvais vraiment une sorte de chef-d'œuvre en ce qui concerne la musique et même le film d'ailleurs. Ça n'est ni mon film préféré d'Almodovar ni mon film préféré de Iglesias, mais enfin, il y a une sorte d'évidence. Il contribue à ce que Almodovar, je trouve, c'est presque faire de mieux dans ses derniers films, c'est-à-dire la fluidité narrative incroyable. C'est-à-dire, il y a vraiment un sens de la narration. Et du coup, il y a un sens de la narration qui est extrêmement musical. Ça force quand même une certaine admiration.
Alors après l'Espagne, le Mexique, l'Italie, intéressons-nous maintenant au jeune cinéma français. Avant d'écouter nos choix, j'aimerais citer quelques titres comme ça dont on ne va pas écouter la musique, mais qu'il est important de relever un peu ce qui s'est fait cette année, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de belles BO françaises du jeune cinéma aujourd'hui. Alors je peux par exemple citer Demus Maeker, ce qu'il a fait pour Divine, premier long métrage. Il y a Daniel Kowalski aussi pour sa sœur Julia pour Crash Cœur. Il y a Zombie Zombie, Étienne Jomet qui a aussi fait une BO fabuleuse pour Irréprochable avec Marina Foïs. Il y a Love Entertainment qui retrouve Lilti Thomas Lilti pour Médecin de campagne, ou encore le groupe Ghost Dance pour La Marcheuse. Et puis je pourrais aussi citer le film Vendeur de Sylvain Desclous avec la BO pleine de guitare d'Amaury Chabotis, ou encore Mercenaires, autre premier long métrage avec la musique de Luc Meillant. Voilà pour les citer et les remercier de nous avoir procuré toutes ces émotions musicales. Et Thierry Jousse avait choisi parmi ce jeune cinéma français Ce sentiment de l'été, qui est le nouveau film de Michael Herz, que particulièrement j'avais beaucoup aimé pour Memory Lane, avec les mêmes musiciens du groupe Tahiti Boy. Alors moi particulièrement, j'ai eu une déception pour ce nouveau film, mais qui vient du fait que j'avais beaucoup aimé Memory Lane. Vous avez toujours été emballé donc dans cette continuité de cette collaboration pour Ce sentiment de l'été.
Bah, on va dire, moi, je pense plutôt l'inverse que vous. C'est-à-dire, je préfère plutôt ce film-là, le dernier film, parce que je trouve qu'il sort un peu de son cadre qu'il avait installé dans des moyens-métrages, et notamment dans son premier long, Memory Lane. Donc là, on est quand même, on bascule un peu dans un tout petit peu autre chose, mais évidemment, on reste dans des tonalités mélancoliques, automnales, on pourrait dire, même si c'est le sentiment de l'été, de ce que sait faire le réalisateur, Michael Herz. Il a vraiment un univers très à lui. Et après, j'ai trouvé que c'est une musique assez simple, la musique qu'a fait David Stankel, enfin surtout lui, quand même le leader de Tahiti Boy, mais c'est une musique qui fonctionne extrêmement bien, comme une sorte de ritournelle mélancolique, comme ça, qui a une présence dans le film que moi j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas une abondance de musique très très grande, et c'est pas une musique expérimentale ou qui tout d'un coup vous fait découvrir un visage de musique que vous n'aviez jamais connu avant, mais ça fait partie des musiques qui fonctionnent très très bien dans un film, parce que tout d'un coup il a trouvé la bonne tonalité par rapport au climat que le film. Et c'est pas un film non plus qui exige beaucoup de musique, parce qu'on sent bien que le réalisateur n'en a pas besoin énormément, même si c'est un grand amateur de musique et notamment de rock indépendant. Mais voilà, c'est très subtilement et très justement fait.
Pour Ce sentiment de l'été, j'ai trouvé que la musique, enfin que le film n'avait pas besoin de musique. Elle est très mélancolique, cette musique, mais elle n'est pas très présente, comme vous le disiez, même très peu présente, ce qui fait qu'en fait beaucoup de scènes sont portées par l'actrice principale qui est Judith Chemla. Pour moi, à ce moment-là, la musique n'est pas d'une nécessité absolue. C'est vraiment les moments où on pourrait la mettre en retrait, parce que ce qu'elle confère est tellement, tellement caractéristique du point de vue émotionnel, que c'était presque quelque chose d'en surplus, quoi.
Je pense que si on l'enlève, ça marchera moins bien, mais c'est une intuition très personnelle.
Et puis, par contre, il y avait quelque chose d'intéressant malgré tout dans la musique, c'était la prise de son, parce que justement, il y avait une forme de proximité et avec le piano et avec la guitare qu'on retrouve rarement. Et ça donnait un sentiment de live et d'authenticité, par contre, qui était surprenant. Et on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de prise de son et donc de grain instrumental aussi marqué. Ça, c'était vraiment intéressant.
Eh bien, écoutons pour cette séquence Jeune Cinéma Français, tout d'abord Ce Sentiment de l'été, on en vient d'en parler avec cette musique de Tahiti Boy. Deux extraits très contradictoires. Il y aura donc cet extrait de Ce Sentiment de l'été qui est plutôt lo-fi, et on va l'enchaîner avec Diamant Noir, qui est plutôt justement au côté opératique de ce polar de Arthur Harari avec la musique d'Olivier Marguerite. Dans notre bilan de l'année en compagnie de Thierry Jousse et de Charles-Pierre Vallière, à l'instant, Diamant Noir, musique d'Olivier Marguerite pour ce thriller singulier et fascinant d'Arthur Harari, premier long métrage, une musique qui lorgne comme ça dans son côté baroque vers Pino Donaggio. Ce qui est marquant, c'est ce thème, parce qu'on dit qu'il y a moins de thèmes aujourd'hui, là il y a un thème obsédant qui revient tout le long du film.
C'était, je crois, la volonté du réalisateur de faire un truc comme ça, il me semble. Et c'est vrai qu'il y parvient. Il y a quelque chose d'assez entêtant. Ouais.
Réalisateur Arthur Harari et compositeur Olivier Marguerite, que nous avions d'ailleurs reçu à Aligre, et qui est interview que vous pouvez retrouver sur aligre-cinésique.fr. On continue avec un incontournable quand il s'agit de faire des bilans de musique de film. C'est la collaboration entre Cliff Martinez et Nicholas Winding Refn qui a donné lieu évidemment à Drive ou encore Only God Forgives. Alors là, s'agit plus pour The Neon Demon, plus proche de Only God Forgives que de Drive, n'est-ce pas?
Oui, clairement. Ce qu'il y a, c'est que c'est, pour moi, c'est aussi une très très belle bande originale. C'est peut-être pas la meilleure de Martinez malgré tout. Effectivement, celle de Drive était très très très, très belle. Celle de Only God Forgives, pour moi, est la meilleure de Cliff Martinez pour Nicholas Winding Refn. Mais là, on retrouve quand même vraiment un savoir-faire. Ils sont tous les deux jusque boutistes presque. Il y en a un qui vraiment choisit le côté féerique, mais aussi démoniaque de la musique, et de l'autre côté, une image extrêmement, extrêmement léchée, avec des lumières, enfin des couleurs très tranchées, un cinéma presque à la David Lynch, le tout avec une sorte de beauté donc visuelle et d'horreur également que nous propose Nicholas Winding Refn, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment dures dans le film. Faut pouvoir apprécier. C'est pas toujours simple, mais vraiment c'est aussi une très très belle musique, et pour l'instant ils sont jamais décevants ces deux-là.
Tout à fait. Puis en plus là, la musique a vraiment une grosse part, elle est 80% du film.
Et on retrouve le côté entêtant un peu qu'on a dans Diamant Noir aussi. Alors pas avec la même musique, mais on retrouve ce côté entêtant. C'est très très présent. Ouais. Thank you.
À l'instant, Carole, la musique de Carter Burwell pour le film de Todd Haynes. Carole, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Alors bien souvent, lorsqu'il s'agit d'une histoire d'amour, il y a le cliché de dire on sort les violons, on fait du thème, de l'émotif. Et là, je trouve que cette musique me prend aux tripes au niveau de l'émotion et de l'amour du film, en allant à l'inverse du cliché, c'est-à-dire c'est de la musique minimaliste qui peut rappeler Philip Glass, par exemple. Et je trouve que dans cette musique minimaliste, eh bien, perce quand même une pointe d'émotion qui m'a touché.
J'aime plutôt assez le film, sans trouver que c'est forcément le meilleur film pour autant du réalisateur, Todd Haynes, qui est un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt et d'attrait. Le paradoxe de cette musique, c'est qu'elle n'est pas extraordinaire en soi. Moi, ce n'est pas forcément la musique que j'écouterais chez moi, justement, en faisant quoi que ce soit d'autre. Mais elle fonctionne parfaitement bien dans le film, c'est ça qui est étonnant. Là, et en même temps, ça n'est ni pour moi le meilleur film de Todd Haynes, ni la meilleure musique de Burwell, mais la rencontre se fait. Moi, je trouve quand même que le film arrive à traiter cette relation, quand même, bon, d'après un roman de Patricia Highsmith que j'avais lu il y a très longtemps. Donc voilà, c'est une réussite, mais peut-être en mineur quand même.
Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où la musique de Burwell, elle est, j'ai l'impression que Carter Burwell fait le boulot, c'est-à-dire qu'il fait une belle musique, justement indépendamment du film. C'est pour ça, c'est un excellent compositeur, dont j'aime beaucoup justement un grand nombre de musiques. Mais là, bon, c'est pas non plus, je rejoins un peu ce que vous disiez Thierry, c'est pas non plus le plus grand Burwell, loin de là. Par contre, c'est vrai que pour moi, la musique est entachée presque par le film qui m'a vraiment déplu. Alors je sais qu'on est un peu partagé, soit on aime ce film, soit on ne l'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont pas aimé parce que justement, j'ai trouvé que Haynes présentait des personnages qui, avec certes normalement une relation forte, et il reste pour moi très 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 superficiel, sans jamais montrer quelque chose de passionnel. C'est-à-dire que ça reste un joli bonbon bien emballé avec une musique sympathique, mais la force nécessaire justement en plus des codes sociaux entre les deux personnages qui n'appartiennent pas au même monde, qui devrait être brisé par l'amour qu'elle ressente, est traité de manière vraiment trop légère du point de vue émotionnel. Et la musique ne participe absolument pas à ça. Et justement, elle ne propose rien en termes de tourment éventuellement qui serait susceptible d'habiter les personnages.
Eh bien, il y a débat, puisque je pense strictement le contraire. Et vous avez préféré, par rapport à Carole, choisir dans le bilan de l'année Steve Jobs, qui pour le coup, moi, m'a laissé complètement indifférent. Alors, convainquez-moi d'aimer cette BO de Steve Jobs par Daniel Pemberton.
Daniel Pemberton, c'est pas forcément le compositeur que j'aime le plus, mais disons qu'en tout cas, ce qui a été proposé à la fois par Danny Boyle et par Pemberton m'a énormément séduit. Parce que il a réussi, Pemberton, à la fois créer des musiques qui sont quasi opératiques, classiques, mais opératiques pour certains passages du film. Notamment, se distingue en trois périodes. À chaque fois, avant des lancements des machines de Macintosh, par Steve Jobs, dans ses grands meetings. Et donc, on a non seulement une sonorité, parfois, qui est très électro, qui représente justement les sonorités des ordinateurs de cette période-là. Alors, des Macintosh, peut-être. Là, je suis pas capable d'en juger, mais en tout cas qui fait largement penser, avec justement une inventivité parfois mélodique, mais en même temps de texture qui est assez intéressante. Il passe ensuite à un genre qui est beaucoup plus classique, qui est celui de l'opéra, où c'est vraiment bluffant. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit mince, est-ce que c'est Pemberton ou est-ce que c'est une reprise ? C'était vraiment, vraiment très très beau, très intéressant, et il arrive à créer cette musique, qui est une musique classique opératique, avec une composition qui, elle, reposerait sur une forme de répétition qui représenterait une musique électronique vraiment très fort, puis pour ensuite arriver à mêler le tout dans certains morceaux, donc et avec un scénario en trois temps pour présenter un personnage qui n'est absolument pas fait comme un biopic traditionnel, non, vraiment très très chouette.
Steve Jobs. après Steve Jobs, on restait en Angleterre à l'instant avec le nouveau film de Ben Wheatley, High Rise, et cette musique de Clint Mansell, une partition incroyable d'originalité avec le choix insolite de l'instrumentation, des sifflements, des tambours, une instrumentation variée qui pour le coup là se fait entendre, et tout en se mettant au service de ce drame opératique pour High Rise.
Alors, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'on retrouve un Clint Mansell qui est quand même assez inspiré, mais quand même pas au niveau de ce qu'il avait pu faire précédemment. Bon, c'est vrai qu'on se souvient toujours de Requiem for a Dream, qui est sa BO de référence, mais après, il a fait quand même d'autres très très belles BO. Celle-ci, pour moi, est quand même relativement classique. Alors c'est vrai, il y a un côté parfois un peu extravagant du point de vue de l'orchestration. Il y a des je crois il y a la scie musicale, des choses comme ça qui interviennent, mais c'est vraiment très très ponctuel. Pour moi, il est resté très classique dans la forme, alors que le film est quand même très déjanté. Après, c'est vrai que le film ne m'a pas non plus totalement séduit, même si Tom Hiddleston, l'acteur, là aussi est vraiment magnifique dans ce film. Mais il y avait une sorte, comme si justement la musique n'était pas forcément toujours adapté à ce que l'on voyait à l'image. Ça, c'est pour ça que j'ai une légère réserve, mais ça reste quand même du Clint Mansell qui est quand même toujours éblouissant.
Écoutons la séquence prochaine et on en parlera juste après. Il s'agit de Nocturama, séquence électronique minimale avec cette musique de Bertrand Bonello, et juste après le film de science-fiction Midnight Special de Jeff Nichols avec la musique de David Wingo. Après Nocturama, musique de Bertrand Bonello, nous venons d'entendre la musique de David Wingo pour Midnight Special. Alors on est là dans le petit thème un peu carpenterien de électro-minimal. Et d'ailleurs, Bertrand Bonello signe lui-même les musiques de son film.
Mais c'est pas la première fois d'ailleurs, parce qu'il a souvent contribué aux musiques de ses propres films. Déjà dans Saint-Laurent, le précédent, il y avait un certain nombre de textures électroniques qu'il avait composées au milieu de morceaux de soul qu'il avait choisi, parce que c'est aussi Bertrand Bonello, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la musique, qui est musicien, mais qui a un grand amateur de musique, un grand connaisseur de musique. Donc pour Nocturama, on peut le noter. Alors, je trouve le film assez abouti personnellement, et je trouve que là, le travail du compositeur réalisateur, c'est-à-dire le même, la même en une seule personne, fonctionne parfaitement bien. Là, c'est une musique électronique, oui, minimale comme ça, mais qui a vraiment une présence dans le film, la bonne présence là aussi dans le film. Et puis, un petit détail qui a à voir avec la musique de film et pas avec la musique originale de Bonello. J'ai adoré la manière dont il a utilisé le générique d'Amicalement Vôtre, la musique du générique d'Amicalement Vôtre de John Barry, qui est une musique mythique et que j'adore toujours. Et la façon dont elle fait irruption vers la fin du film, c'est assez incroyable et assez étonnant. C'est pour moi un des plus beaux moments de cinéma de cette année.
Et Bertrand Bonello, qui a l'habitude, notamment Saint-Laurent, de faire une espèce de jukebox pendant tout le film. Là, malgré tout, ils sont reclus dans un centre commercial et les moments silencieux sont très présents.
Oui, absolument. C'est pas un film inondé de musique ou de son. C'est vraiment une sorte d'épure au fond, ce film. Il y a un côté presque bressonien sur certains plans, notamment tout le début, et c'est très réussi, je trouve.
Nous enchaînons avec l'Australie. Il s'agit d'un film, d'un western policier du réalisateur anglais David Mackenzie. Et je dis Australie, c'est par rapport à la nationalité de Nick Cave, le tandem Nick Cave et Warren Ellis qui en signe la musique. Magnifique duo qui vient de la scène et qui signe donc une musique qui un peu folk.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment dans la lignée de The Proposition en fait. On a un film qui est contemporain où c'est l'histoire de deux frères qui essaient de racheter la maison de leur mère qui est décédée parce qu'il y a justement du pétrole qui se trouve dessous, donc ils sont censés, alors qu'ils sont très pauvres, ils sont censés devenir riches, en tout cas pour leurs enfants, et pour ça donc ils volent les banques de ceux à qui ils doivent de l'argent. Et il y a vraiment dans ce film là une sorte de complainte que Nick Cave et Warren Ellis sont capables de produire, à la fois par justement le violon très plaintif et derrière ces musiques comme ça très à la fois évanescentes et en même temps très sombres parfois. C'est une atmosphère en fait qui transcende le film complètement. Alors, la musique transcende le film à cause de ce caractère noir, désenchanté, plaintif qu'elle renferme, au lieu d'en faire un simple film d'action parfois, vraiment lui donne une toute autre identité beaucoup plus profonde et qui noue des liens d'ailleurs d'une certaine manière entre les personnages, entre les deux frères et même d'ailleurs le shérif qui est interprété par Jeff Bridges qui est très intéressant aussi avec son adjoint indien.
Comancheria, musique de Nick Cave et Warren Ellis. Après Comanche Area, à l'instant, il s'agit de l'incontournable John Williams pour son Steven Spielberg, son réalisateur fétiche, pour ce film fantastique, donc le BGG, le bon gros géant. Et pour moi, il n'y a pas de bilan sans John Williams possible, puisque John Williams, c'est donc l'incontournable encore aujourd'hui, digne des Bernard Herrmann et compagnie. Donc évidemment, il sait faire de la musique de film à la manière classique, évidemment. Donc on est peut-être moins pris par les tripes d'une autre type de musique de film, mais en tout cas, elle raconte cette musique qu'on peut dire narrative. Elle raconte quelque chose par sa manière de jouer avec les thèmes, et son talent mélodique fait que elle, plein d'allégresse, en fait, il passe d'un instrument à un autre dans la continuité du thème. Je veux parler de rebondissements instrumentaux, presque plein d'humour, en fait. John Williams, c'est vraiment un compositeur qui presque peut faire rire rien qu'à l'écoute de sa musique.
Par rapport à ce qu'il avait fait précédemment, c'est ça qui est important de noter, Cheval de guerre ou Lincoln, et surtout la voleuse de livres, il avait un peu baissé d'une certaine manière de niveau. Là, il retrouve à la fois des mélodies qui sont enthousiasmantes et puis une orchestration, alors qu'il a très qui ressemble beaucoup en fait à ce qu'il a l'habitude de faire, où il pioche dans ce qu'il a fait précédemment. Donc on disait E.T. ou Star Wars, on reconnaît bien, c'est pour ça c'est une très belle BO. Ouais.
Nouvelle séquence de ce bilan, et on en parle juste après. Il s'agit d'une séquence des tandems incontournables du cinéma français. Il y a Rob, qui devient incontournable maintenant pour le cinéma de Rebecca Slotowski avec Planétarium, et juste après, Philippe Rombi, qui retrouve évidemment son incontournable François Ozon pour France.
Thank you.
Après Planétarium, la musique de Rob pour Rebecca Slotowski, à l'instant, la musique de Philippe Rombie pour François Ozon. Planétarium, hein, nouveau tandem dans le cinéma français incontournable, Thierry Jousse.
Oui, c'est très réussi la musique. En tout cas, le film est un petit peu plus inégal à mon sens. Cette histoire de deux sœurs qui font du spiritisme ou qui sont un peu médiums et qui en même temps est liée au début du cinéma avec Emmanuel Salinger qu'on voit faire son retour sur un film assez étonnant. J'ai trouvé que Rob, qui nous avait plutôt habitué à des BO très électro pour des films d'horreur par exemple, ou le Made in France de Nicolas Boukrieff, mais également pour les deux premiers films de Rebecca Zlotowski, avait vraiment trouvé une espèce de maturité. Non pas que je trouvais que ces musiques d'avant étaient moins bonnes, mais voilà, il y a une forme de maturité dans le film. C'est très très abouti cette musique, une collaboration avec un arrangeur qui s'appelle Maurice Reich ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est une totale réussite en matière de musique. J'ai même été assez surpris par la qualité de cette musique. Non pas que je m'y attendais pas, mais je suis très heureux en tout cas que cette collaboration se poursuive.
Le bilan va arriver à sa fin avec cette nouvelle séquence consacrée au film sur la musique. Il y a, comme chaque année, des films où la musique est le sujet. Et j'ai choisi de vous faire entendre Mobile Étoile, qui est le nouveau film de Raphaël Nadjari, avec cette chanson interprétée par la formation originale du film et composée par Jérôme Lemonnier. Jérôme Lemonnier, que l'on connaît par ailleurs en tant que compositeur de Denis Dercourt, et qui a donc fait une musique qui pourrait s'apparenter à une musique d'un autre temps, mais qui en même temps est typiquement une musique originale faite pour le film, pour cette musique donc in, c'est-à-dire qu'on entend à l'image. Le bilan se termine avec les films d'animation, puisqu'on ne peut pas faire un bilan de BO sans parler évidemment de l'animation, qui laisse une place très importante à la musique de film, puisque finalement le film d'animation n'a pas de bande son réelle, on va dire, tout se recrée, et donc la musique de film aussi participe à créer de toutes pièces la bande originale, la bande son. Je pourrais citer par exemple Ma vie de courgette, le film suisse avec la musique de Sophie Hunger. Je peux citer aussi La Tortue Rouge, la musique de Laurent Pérez Delmar, pour ce film produit par Ghibli. Mais on a choisi de diffuser Le Monde de Dory, film Pixar, la musique de Thomas Newman pour ce nouveau film de Andrew Stanton après Wall-E.
Oui, alors effectivement, cette musique de Newman, alors c'est un compositeur que j'aime beaucoup, Thomas Newman, parce que justement il sait créer des atmosphères, il sait créer des ambiances, il a une palette, des sonorités assez étonnantes, donc pour moi un excellent compositeur. La seule chose qu'on peut lui reprocher, à mon sens, c'est que lorsqu'il s'agit justement de films d'action, et les films, alors quand je dis d'action, c'est vrai qu'on pense au dernier James Bond, on peut pas dire qu'il ait renouvelé véritablement le genre, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que c'est un compositeur qui sait mieux saisir des ambiances et des atmosphères, des teintes que la musique produit, que produire une dynamique à l'image. Et dans un film comme James Bond, c'est tout particulièrement frappant parce qu'on a besoin de dynamique visuelle parfois et ça il a plus de mal, même s'il y a certaines séquences qui sont très bien faites, attention. Et dans le cinéma d'animation, effectivement, la musique est très très présente, elle est presque indispensable parce que elle communique énormément, certes des émotions, mais aussi elle crée une dynamique très importante. Et parce que souvent ça fait défaut dans le cinéma d'animation, et ce justement depuis bien longtemps, depuis les années 30, hein, et les cinémas de Walt Disney, enfin les films de Mickey.
Et ce monde aquatique, je trouve, est parfaitement retranscrit dans cette diversité, la richesse de ce monde aquatique, avec ses sonorités où on pourrait entendre l'impression d'entendre des poissons.
Alors c'est vrai, Benoît, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est malgré tout là aussi encadré. Alors il y a beaucoup de classicisme, mais tout ce qui est dynamique est difficilement géré par Newman pour moi. Alors que la partie, au contraire, émotionnelle et atmosphérique, elle est beaucoup plus évocatrice que ce qu'on peut retrouver parfois dans les films d'animation grâce à cette espèce de fantaisie orchestrale dont il fait preuve.
Eh bien, écoutons le monde de Dory. Maintenant que le bilan est terminé, Thierry Joux, vous avez souhaité revenir sur une reprise de 2016, une reprise d'un coffret en fait consacré à Quincy Jones.
Alors une reprise, oui, c'est un coffret qui est paru à la fin de cette année, début décembre, qui réunit dans 6 CD, voilà, chez Universal, pas l'intégrale de l'œuvre de Quincy Jones pour le cinéma, mais enfin en tout cas des partitions vraiment importantes, non négligeables, notamment des partitions inédites en CD comme celle qu'il avait composée pour le film de Richard Brooks, In Cold Blood, de sang froid, d'après le livre de Truman Capote. Et c'est la découverte d'un, enfin la, pour moi, c'est pas une découverte absolue parce que je le savais déjà un peu, mais enfin, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être une découverte vraiment de à la fois du génie de Quincy Jones, de la variété de son inspiration, et peut-être que c'est aussi dans le cinéma qu'il a donné sa pleine mesure comme compositeur, avec à la fois la formation d'arrangeur qu'il a eue avec le jazz, et puis également c'est les cours qu'il avait suivis avec Nadia Boulanger à la fin des années 50 à Paris. Donc c'est vraiment une découverte. Je trouve que ça aurait pu être un cadeau de Noël, mais peut-être même si Noël est passé, ça peut être encore le cas. Et c'est vraiment une grande découverte, probablement encore une fois pour la majorité de la population.
Et de Quincy Jones, j'ai choisi de vous faire entendre la musique de Dans la chaleur de la nuit, film de Norman Jewison de 1967. Yeah. Charles-Pierre Vallière, maintenant on sort un peu du bilan parce que vous avez choisi de nous parler d'une avant-première, Jackie. C'est le nouveau film du réalisateur Pablo Larraine, réalisateur chilien. Et la musique est composée par Michael Levy qu'on avait entendu dans Under the Skin.
Oui, Thierry donc l'avait évoqué au début de l'émission. C'est vrai que c'est... Alors, je ne sais pas si dans ce bilan, on a mis à l'honneur une femme compositrice. Je crois qu'il n'y en a pas. C'est dommage parce que c'est justement, à mon avis, le meilleur compositeur actuellement, Mika Levy, donc, qui effectivement avait... On pensait que c'était un coup d'essai, enfin que c'était une heureuse chance de sa part dans le cadre d'Under the Skin, parce que la musique faisait 50% du film, elle était vraiment d'un autre monde. On n'avait pas l'habitude d'entendre ce genre de musique au cinéma. C'était très novateur, très angoissant, très bien articulé, vraiment que de belles choses à entendre, même si la musique est très difficile aussi parfois parce qu'elle est extrêmement angoissante. Et là, donc, on pouvait se dire que pour Jackie, ça allait être beaucoup plus consensuel. Le film n'est pas encore sorti, il va sortir normalement je crois au mois de fin janvier.
Il sort le 1er février.
1er février. La musique, on a la possibilité, enfin on l'entend depuis quelques temps, elle était sortie déjà au mois de novembre, enfin il y avait un titre qui était sorti au mois de novembre, elle est sortie au mois de décembre dans son intégralité, parce que le film lui-même est sorti aux États-Unis à ce moment-là. Et donc en fait, c'est bluffant, c'est vraiment de nouveau, on dit que c'est pas un coup d'essai donc pour Under the Skin, c'est vraiment cette compositrice qui est hors du commun pour moi. Si elle continue comme ça, elle peut vraiment révolutionner le monde de la bande originale. C'est un cas très atypique.
Je vous remercie Thierry Jousse et Charles-Pierre Vallière d'avoir participé à cette émission Bilan.
Merci et à bientôt.
À bientôt, au revoir. Vers Manuel Bleton, qui a défriché dans les brocantes des raretés en vinyle. Alors, quelle est la moisson du mois, Manuel ?
Alors, ce mois-ci, on va écouter la BO du film Repérage de Michel Souter, sorti en 1977, avec Jean-Louis Trintignant et Delphine Seyrig. La musique est signée Arié Dzierlatka, compositeur pour Alain Tanner ou Claude Goretta. Et La lumière des justes, série qui est sortie dans les années 80, en septembre 79 exactement, composée par Georges Garvarentz et son fidèle bras droit Maurice Coignard aux arrangements. Georges Garvarentz est très connu pour avoir composé pour Charles Aznavour d'ailleurs. Charles Aznavour chante la musique du générique de cette série, mais ça a aussi été un compositeur très prolifique pour le cinéma, puisqu'il a collaboré avec Verneuil, René Clair, Jean Delannoy ou Max Pécasse, entre autres.
Merci Manuel pour ces raretés.